Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, en effet, c'est le procès. Aujourd'hui, ils disent, ces procès, l'histoire du XXe siècle par fragments. Et il est, comme chaque vendredi, un peu question de cinéma. Le procès politique, c'est un procès qui voit le prétoire se transformer en espace d'affrontement d'au moins deux visions du monde et qui a le plus souvent pour enjeu la médiatisation d'une cause ou de revendication. Nous en parlions lundi avec Vanessa Codaccioni. Le lendemain, mardi, nous recevions trois jeunes avocats et une jeune juge avec qui nous évoquions les raisons qui motivent leur engagement professionnel et les vies qui vont avec. Mercredi, nous nous demandions comment diverses nouvelles technologies introduites tout au long de la procédure pénale modifient habitus et culture judiciaire. Et enfin, hier, de 1857 à 2016, nous nous demandions ce que le procès Bovary agite encore en nous. Vous pouvez réécouter tout ça sur franceculture.fr. Il est maintenant 14h pile, 02 minutes. Bienvenue à tous dans les nouvelles vagues. Les nouvelles vagues sont comme la musique, elles passent par les êtres, font vibration et marquent nos parcours de points d'intensité. Ce sont ces moments plus puissants que les autres que nous écoutons être racontés chaque jour en fin d'émission. Aujourd'hui, le joueur de kora Balaké Sissoko évoque la naissance de sa fille, 3 mois avant terme, Maïmouna, qui va bien, couveuse vers 14h45. C'est le dernier moment de cette semaine thématique autour du procès. Le collectif Un culte propose dans le livre En procès une métonymie du siècle à travers différents exemples, à l'énorme exception de procès concernant les guerres mondiales et la Shoah sur lesquels par ailleurs la littérature abonde. Le collectif d'auteurs a trouvé dans ces procès emblématiques des fragments de réels révélateurs d'une époque et qui leur permettent de dire l'histoire d'une voix autre que la seule voix des vainqueurs. Ils dessinent un XXe siècle qui se prolonge jusqu'à 2008, le dernier procès évoqué étant celui de l'Akhtar Boumediene, ancien détenu du camp de Guantanamo. Arnaud Bertina, vous avez coordonné cet ouvrage avec Mathieu Larnaudy. Vous avez aussi écrit le texte introductif. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Et après l'évocation de ces procès réels, on ira du côté de la fiction avec 3 choix d'extraits de films qui nous diront ce qui se passe quand le cinéma s'en mêle. Alors, vous le dites au début du texte introductif, il y a un point de départ à cette envie collective de travailler sur le procès comme moment sociétal, comme moment individuel. C'est quoi ce point de départ ?
Le point de départ, c'est la réflexion d'un ami et qui invitait à faire ce résumé-là, c'est-à-dire à résumer le siècle à partir de quelques procès symptomatiques. Alors évidemment, des procès, on en a tous en tête. Le but du jeu, c'était peut-être d'aller vers ces procès-là, mais aussi d'en trouver d'autres qui nous semblaient peut-être plus significatifs. Par exemple, je pense au texte de Julia Deck sur l'affaire Péchinet, qui est une affaire connue, retentissante à l'époque, mais qu'on a beaucoup oublié depuis parce que les scandales financiers se sont multipliés et puis parfois d'envergure encore plus importante. Bon, c'est intéressant de revenir sur ce procès-là, par exemple, ou le procès de Marie-Claire Chevalier, qui est peut-être resté dans une certaine mémoire, mais qui est peut-être pas non plus le procès le plus important pour ce qui s'agit des mœurs en France dans les années 70. Et ben pourtant, voilà, de relire aujourd'hui ce qu'écrit Julie Bonny sur ce procès-là, c'est vraiment édifiant. Moi, par exemple, c'est un procès que je ne connaissais pas, une affaire que je ne connaissais pas, et relire ce qu'elle écrit dessus aujourd'hui, c'est absolument sidérant. Donc des fois, ça permet de mesurer l'écart par rapport à la société dans laquelle on vit. À d'autres moments, ça permet aussi de faire l'archéologie de cette société-là, et quand on voit que certaines dérives continuent d'être aujourd'hui à l'œuvre, on se dit que la justice n'est peut-être pas si bien passée que ça, en fait, et que même si justice a été rendue à un moment innocentant les innocents, on se rend compte que non, il y a quand même des gens qui continuent à être à souffrir de ces choses-là, et donc que ces combats-là, en fait, ne sont pas terminés. Donc il y avait l'idée à la fois de faire une histoire du XXe siècle, mais en fait, en même temps aussi de parler de l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, quoi. Il n'y a jamais l'idée de faire de l'histoire, disons, un petit peu gratuitement, mais toujours de montrer de quelle manière cette histoire-là peut continuer de nous servir aujourd'hui.
Et l'hypothèse était laquelle? On a dit pendant 5 jours que le procès était un lieu à la fois physique et symbolique extrêmement important pour plein de raisons. Vous formuliez quoi comme hypothèse de ce que le procès pouvait dire à la fois du temps passé et du temps présent?
Peut-être qu'on ne formulait rien a priori. Peut-être qu'en amont, on ne formulait rien. On se disait juste que, effectivement, étant donné que c'est un lieu très symbolique, obligatoirement, les enjeux vont être décuplés. Et le résultat du procès, son effet sur l'époque, sera décuplé lui aussi. Et donc on ne tenait pas un discours a priori. En revanche, le discours qu'on peut tenir, disons un petit peu a posteriori, une fois qu'on lit tout le volume, c'est de constater en fait à quel point l'idéologie se rejoue là, et elle se rejoue pas toujours de manière glorieuse, elle se rejoue aussi de manière malheureuse, c'est-à-dire quand tout d'un coup l'idéologie est mise à mal. Et que toute une société, disons la société des vainqueurs pour aller vite, essaye de parer au plus pressé, et c'est-à-dire se met elle-même hors la loi ou hors la justice pour essayer de sauver les meubles en fait. Et ça apparaît dans plusieurs des textes rassemblés là dans le volume. Et je dois avouer, c'est peut-être ma naïveté, mais je dois avouer que c'est une surprise un petit peu pour moi. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse trouver autant d'exemples aussi forts de moments où l'État et la justice d'un État ou la justice d'une nation se seront mis eux-mêmes hors la loi ou hors les clous pour essayer de sauver les meubles.
Mais c'est peut-être le fruit d'un choix. Est-ce que ça ne découle pas aussi des procès que vous avez collectivement choisis et qui dessineraient ce trait-là ?
Si, c'est possible. C'est toujours la fragilité d'un tel projet. C'est-à-dire que soit on exhaustif, soit on l'est pas. Et si on l'est pas, effectivement, c'est difficile de dire que c'est une photographie exacte du XXe siècle. En revanche, ça nous semble être une photographie quand même assez... assez intéressante, c'est-à-dire on a essayé de balayer, voilà, depuis les procès financiers jusqu'aux questions de mœurs, jusqu'aux questions de guerre, etc. Voilà, on essayait quand même de rendre compte de plein de lignes de failles qui ont structuré, déstructuré le XXe siècle. Donc oui, il faudrait. On ne prétend pas à l'objectivité de l'historien. Par contre, nous ne sommes que romanciers et nous sommes surtout romanciers, c'est-à-dire on essaye de dire que la littérature, quand elle se penche sur ces questions-là, a peut-être une autre voix à faire entendre que celle des juristes et aussi que celle des historiens.
En témoignant ce que je disais aussi au début de cette semaine avec le livre de Joseph Andras qui prononce vraiment le pouvoir de la fiction à l'endroit d'un silence d'État et un silence politique.
Exactement.
Exactement de la même façon. Comment ça s'est passé concrètement ? Chacun des auteurs arrivait avec « ce procès m'intéresse » ou « j'ai travaillé ce procès dans le cadre de recherche pour une fiction » et vous vous rassembliez autour d'une table en disant « voilà ce que j'ai dans les poches ».
Autour d'une table, autour d'une bouteille.
Décidément, c'est fou. À chaque fois qu'il est question d'un collectif d'auteurs, il est question d'alcool.
Mais oui, mais ça cimente l'amitié. Non, en fait, à l'origine de ce volume, il y a d'abord un numéro de la revue Inculte, donc, qui était paru, je crois, peut-être en 2006, 2007, je ne sais plus. Dans ce numéro se trouvaient déjà 5 ou 6 textes de ce volume, mais on a eu à cœur de reprendre ce, puisque 5 ou 6 textes étaient effectivement très courts pour essayer de rendre compte d'un siècle, beaucoup trop court. Et donc on a eu envie de reprendre ça. Les auteurs qui avaient déjà écrit ont retravaillé leurs textes, puisqu'il s'agissait de leur donner une ampleur un peu plus significative. Mais surtout, donc on s'est tourné vers d'autres auteurs, d'autres amis, et là effectivement en leur laissant une grande marge de manœuvre, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui vous intéresse, de quoi est-ce que spontanément vous auriez envie de parler, et ensuite il s'agissait que le volume ait une cohérence et donc qu'on n'ait pas 5 textes sur la guerre en ex-Yougoslavie. Et voilà, donc ensuite c'est des choix éditoriaux, mais de discussion toujours, c'est-à-dire que chacun était très libre, on a conseillé aucun auteur, et le but du jeu c'est que chacun soit au plus près de ce qu'il passionne et de ce pourquoi il a développé une forme d'intelligence particulière.
Et vous avez eu la sensation que des procès appelaient des formes littéraires, appelaient des langues singulières, où ce sont des auteurs qui, à travers ces procès, travaillaient leur propre langue et leur propre forme?
Ça, c'est une belle question, mais sans doute un peu indémêlable. C'est-à-dire, par exemple, si on prend le texte de Marie Cosnet sur l'affaire Christian Ranucci, Marie a un style qui est bien à elle, elle ne mène pas un récit de manière académique de bout en bout. Il y a beaucoup d'émotions qui passent dans son texte, avec même une certaine forme de scansion quand elle revient sur l'idée de voilà, on a tué un enfant. Est-ce que c'est cette affaire-là qui déclenche cette émotion chez elle, ou est-ce que c'est aussi son regard sur le monde qui ne veut pas se départir de cette émotion? Voilà, c'est un petit peu compliqué. On est toujours, je pense que c'est un peu l'histoire d'utiliser cette image, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Dans le style d'un auteur, il est toujours un peu compliqué de distinguer ce qui est de l'ordre de l'intention ou de l'humeur, et surtout ce qui est de l'ordre de son projet. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est son projet qui appelait cette écriture-là, mais le fait qu'il y a une grande variété de... Voilà, il y a certains textes qui sont caustiques, un peu à la manière anglaise. Il y a d'autres textes qui sont plus des textes de colère. Et puis, il y a des textes qui sont plus portés, voilà, par une sorte d'émotions étouffées, de trop-plein d'émotions face à des formes d'injustice, de cruauté. Donc voilà, le panel des réactions est assez vaste, mais c'est un peu la base du collectif, ou de tout collectif. C'est justement de parier sur cette diversité-là.
Et d'ailleurs, on a dit aussi que le procès était un endroit pour différents langages et parfois pour que se percutent différents langages, le langage de la loi, le langage de l'avocat, du juge, mais aussi des différents prévenus, des experts. Donc c'est forcément aussi un endroit de l'hétérogénéité des langages qui sont dans les textes.
Exactement, mais je pense que c'est pour ça aussi que nombre d'écrivains se passionnent pour les procès. C'est justement parce que d'abord la langue qui s'y fait entendre est une langue, que ce soit celle de l'accusation ou celle de la défense, qui relève de la grande langue, puisqu'il y a des exercices oratoires, il y a des concours d'avocats, etc., etc. Donc là, à ce moment-là, dans une langue qui est aussi figée, aussi sûre d'elle-même, aussi sûre de ce qu'elle transmet, il y a quelque chose d'intrigant pour un auteur qui, au contraire, est toujours du côté du doute, c'est-à-dire de comment ma langue peut arriver à faire passer quelque chose. Donc là, sont deux mondes qui s'observent, mais vraiment en ne se comprenant quasiment pas, le monde de la justice et puis le monde de l'écriture. Ça, c'est un premier point. Mais c'est surtout que dans le cadre du procès, quelque chose se dit de la société qui s'écrit elle-même, enfin qui écrit elle-même sa propre histoire, ses propres valeurs, qui cherche à se réconforter dans ses propres valeurs, c'est-à-dire quand il y a un crime, c'est toute la société qui potentiellement peut être amenée à trembler sur ses bases. Et donc à ce moment-là, la société, la loi, la jurisprudence, voilà, écrit sa propre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est de présenter à ce moment-là un contre-récit, une contre-langue, quoi, qui sera celle de l'écrivain, et justement qui sera donc plus ouverte au doute, et qui aura à cœur surtout d'utiliser le langage autrement, quoi, c'est-à-dire de manière beaucoup moins assertive, de manière beaucoup plus peut-être bâtarde, et que faire entrer cette hésitation-là à l'intérieur du procès, c'est peut-être une belle chose, c'est peut-être un vrai geste politique aussi.
Le procès de Bobigny, je l'ai, si vous voulez, j'en ai fait un événement pour populariser, faire connaître la cause des femmes, mais populariser les injustices, l'injustice qu'elles subissaient en n'étant pas maîtresse de leur propre corps. Je répète, quelqu'un qui n'est pas maître ou maîtresse de son propre corps est esclave. Ça a beaucoup aidé, ça a préparé, si vous voulez, l'opinion publique, d'abord, parce que, vous savez, c'était 5 colonnes à la une dans le France Soir, à l'époque. Nous avons eu un appui à peu près unanime, même de ceux qui, pour la tradition, pour la religion, par peur de donner aux femmes toute leur liberté, surtout leur liberté physique, étaient opposées. Et tout ça s'est finalement réuni pour faire le procès de Bobigny, qui a été un procès public d'une démonstration que la femme ne pouvait pas continuer à être esclave de son corps. Indépendamment, j'ai même été moi assez loin, puisque j'ai plaidé le droit au plaisir des femmes, ce qui ne s'était jamais dit. Donc, pourquoi pas ? Le droit au plaisir des femmes qui exigeait qu'elles soient protégées, sans que ça puisse nuire à qui que ce soit.
Ici une archive de Gisèle Halimi qui s'entretient avec Laure Adler dans Hors-Champ en mars 2012. Il est question de ce procès de Marie-Claire Chevalier, un procès dont s'empare l'une des auteurs que vous citiez tout à l'heure. Merci beaucoup, Julie Bonny. Qu'est-ce qu'elle en fait de ce procès-là? Alors peut-être redire simplement de quoi il s'agit. Un procès qui a lieu en 1972.
Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un procès que moi je ne connaissais pas, je l'avoue. C'est une histoire absolument sidérante, au sens où une jeune femme de 15 ans Marie-Claire Chevalier se fait violer par un jeune homme sous la menace. Ce jeune homme, elle se retrouve enceinte, elle met sa mère dans la confidence, elle vient d'un milieu très très modeste, ça leur coûte plus de 2 mois de salaire de la maman pour pouvoir avoir recours à un avortement. L'avortement se passe mal, il y a des frais médicaux derrière, etc. Or, pendant le même temps, le jeune violeur se fait arrêter par la police pour des larcins et négocie avec la police, pas avec la justice, avec la police, sa libération en disant « moi j'ai quelque chose de plus gros à vous donner ». Ce plus gros à vous donner, c'est qu'il a su qu'elle s'est fait avorter. Et là, la chose est validée, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est plus inquiété, et tout d'un coup, on va chercher Marie-Claire Chevalier et sa mère chez elle pour les emprisonner, etc. Et cette question-là du violeur ne va à aucun moment réapparaître dans le procès. Et à aucun moment dans la vie de cet homme ne sera à nouveau inquiété par la justice. Pardon, mais c'est en 72. Pour quelqu'un de 2016, enfin moi j'ai 40 ans, je découvre ça en 2016, je trouve ça invraisemblable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la justice puisse être complètement indifférente au fait qu'il s'agit d'un viol et que, évidemment, toute la société devrait secourir cette jeune femme et la laisser en paix derrière. Enfin bon, voilà, c'est des choses très surprenantes. Alors, Julie, elle a fait un travail aussi de recoupement, donc c'est-à-dire elle cite beaucoup de passages
du
procès.
Là aussi, il y a une vraie hétérogénéité des paroles dans ce texte-là.
Exactement, voilà, elle fait entendre beaucoup d'échanges très courts, mais elle en prend plusieurs. Et notamment, il y a cette phrase incroyable de Gisèle Halimi. Le président lui dit, parce qu'il la voit partir dans des développements, il dit « oui, bon, on va pas faire le procès de la société ». Et Gisèle Halimi lui répond « bah si, justement, si ce procès va être l'occasion du procès de la société ». Et ça, c'est la réponse d'une héroïne, c'est-à-dire que tout d'un coup, alors qu'on voudrait cantonner ça justement à des affaires de personnes, c'est de montrer au contraire comment l'idéologie du temps se joue là-dedans et comment cette idéologie est criminelle. Parce que dans ce cas-là, ce qu'on laissait entendre, c'était que elle aurait été moins coupable à se laisser mourir ou à abandonner son enfant. Et ça, c'est pour cette jeune femme-là de 15 ans, elle avait déjà conscience que c'était impossible, irrecevable. Et la personne qui va lui permettre l'avortement, elle aussi avait eu à abandonner un enfant ou avait été elle-même abandonnée et ne voulait absolument pas que quelque chose comme ça se reproduise. Donc à la fois on sent que c'est quelque chose qui est très très loin de nous. Et en même temps, par exemple, j'ai le souvenir qu'en Irlande, il y a quelques années, une jeune femme, très jeune, pareil, 16-17 ans, a été violée, et que l'Irlande lui a refusé son visa pour aller se faire avorter à l'extérieur, quoi. Donc ça avait beau être l'enfant d'un viol. Et ça, c'est très récent, c'est en 2008-2009, et c'est en Europe. Donc faire ressortir cette histoire de 1972, c'est pas juste dire « oh, regardez à l'époque, vraiment... » Non, c'est encore aujourd'hui. Donc dans le travail de Julie, il y avait quelque chose de très simple dans l'écriture, mais de très, très salutaire.
Avec une intention comme celle-ci, c'est-à-dire faire un texte qui puisse aujourd'hui et par contamination faire le procès d'une société contemporaine. Quand on entend Gisèle Halimi dans cette archive dire « j'ai utilisé ce procès pour faire quelque chose, pour populariser », c'était un outil, ce serait un outil littéraire pour Julie Bonny que de parler du monde contemporain de cette manière-là ?
Oui, tout à fait. Puis c'est aussi l'histoire que ces procès-là sont des tribunes. Ça apparaît presque dans tous les textes, en fait. C'est que ces procès-là sont des tribunes à un moment pour justement emmener le cas singulier sur une scène beaucoup plus vaste. Et presque tous les textes se terminent aussi sur l'idée que cette histoire-là creusée par ce moment-là est encore en cours. Donc là, on voit bien aussi de quelle manière ça peut nourrir le travail de chacun, justement. Si cette histoire-là est encore en cours,
écrivons.
Continuons de l'écrire, quoi.
Charles Manson est coupable, directement ou indirectement, de 8 meurtres commis sans raison. Cette phrase accusatrice, ce n'est pas un magistrat au procès de Los Angeles qui l'a prononcée, c'est M. Richard Nixon. À Denver, dans le Colorado, le président des États-Unis s'était arrêté lundi après avoir passé 10 jours de vacances à San Clemente, en Californie. Il regagnait Washington. Au cours d'une réunion rassemblant 200 représentants du ministère de la Justice dans les 50 États américains, Richard Nixon a prononcé 3 discours, et c'est dans le troisième qu'il a évoqué le procès Manson face aux caméras de la télévision américaine. « J'ai suivi, a-t-il dit, les comptes rendus du procès qui s'étalaient tous les jours à la une des grands journaux. Voilà Manson, voilà un homme qui est coupable de 8 assassinats commis sans raison et qui est pourtant présenté comme un héros. Les avocats de Manson, qui ont un comportement inqualifiable à l'égard de la magistrature, sont présentés comme des victimes. Le président du tribunal, lui, comme un bourreau. » Face à la tempête soulevée dans l'opinion publique par cette déclaration, Richard Nixon a essayé d'en limiter la portée un peu plus tard en disant notamment « Je n'avais pas l'intention de formuler des jugements sur la culpabilité ou l'innocence des accusés. Je sais bien que dans cette affaire, tous les faits ne sont pas connus. » Mais à Los Angeles, les avocats de Charles Manson et de ses co-inculpés réagissent violemment. Ils demandent aussitôt au président du tribunal d'annuler le procès purement et simplement. Le président refuse.
Une deuxième archive, pour évoquer ces procès que vous traitez ou que le collectif Inculte traite dans ce livre-là. Arnaud Bertina, ici, il s'agit d'un extrait de journal, 70-71, on ne sait pas exactement, puis c'est une archive qui a été diffusée dans la grande traversée consacrée à Polanski en 2012 et signée Florence Colombani. Charles Manson, c'est Mathieu Larnedi qui s'en occupe et qui s'en occupe du côté du spectaculaire, qui s'en occupe vraiment du côté de ce que le procès a de scénographié, de cinématographique. On entend ici les caméras de télévision, la une de tous les journaux, la gloire et la célébrité. C'est l'axe que choisit Larnedi.
Oui, et puis c'est un axe qu'on retrouve aussi dans le texte de Maïlys de Kerangal sur O.J. Simpson, c'est-à-dire sur le fait que à un moment il y a une espèce de d'hystérie collective qui s'empare du pays parce que ce sont des figures charismatiques ou complètement folles ou des figures un temps adulées comme celle d'O.J. Simpson. Et là pour Charles Manson, voilà, on est face à quelqu'un de tellement fou, tellement je ne sais pas comment le qualifier, tellement toujours inattendu, que obligatoirement la façon qu'a le reste de la population américaine de recevoir ces événements-là clive tout le monde. Entre les défenseurs béats qu'on peut voir sur des images d'archives télévisées où on voit des jeunes femmes venir témoigner au micro des journalistes, mais de manière mais vraiment extatique. Donc il y a tout du gourou, mais il y a aussi des tas d'éléments politiques, la croix gammée qui se fera tatoué sur le front ensuite. Là, c'est vraiment quand même un cas un peu à part, un peu exceptionnel. Mais Mathieu, effectivement, essaye de montrer à quel point un cinéma peut répondre à un autre, quoi. C'est-à-dire comment le cinéma de Manson, calculé ou pas calculé, parce qu'il est tellement fou qu'on peut pas savoir si c'est vraiment une stratégie pour perturber son procès ou si juste il est incontrôlable. Et à ce cinéma-là va répondre à un autre cinéma. Et ces moments-là, qui sont des moments de très grande fragilité aussi de la justice, sont des moments souvent étonnants, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on retrouve un peu la justice les quatre fers en l'air, parce que justement, elle n'est pas habituée en fait à être à ce point, non pas méprisée, c'est pas ça, mais à être à ce point bousculée, quoi. Et donc, il faut que le président des États-Unis vienne à la rescousse, c'est-à-dire il peut pas laisser les choses se faire sereinement parce qu'il n'y a plus aucune sérénité. Et donc il prend la parole, mais évidemment, il n'a pas à prendre la parole. C'est absolument scandaleux, surtout si en plus c'est pour dire. Faut se souvenir, par exemple, en France, à la même époque, dans l'histoire de la jeune professeure qui a été guillotinée qui s'est suicidée pour avoir une relation avec un de ses élèves. Bon, je suis désolé. Et Pompidou, en conférence de presse, au lieu de prendre parti, parce qu'il sait qu'il ne doit pas prendre parti, que justement le fait de se retenir permet peut-être que la justice se fasse normalement, cite Éluard et il cite des vers d'Éluard qui sont magnifiques, mais qui sont aussi qui sont pas simples, qui sont assez obscurs et qui disent, qui lui permettent juste à lui, président, de dire à la fois son impossibilité de parler, puis en même temps le fait d'être très déconcerté, quoi. Donc entendre là l'archive que vous avez sortie sur Nixon, c'est assez bon. En même temps, Nixon c'est encore un autre fou, donc c'est bien parce que ça convoque tous les fous en fait cette affaire là. C'est un grand raout de fous et de. Je pense que Mathieu a raison à ce moment-là de montrer ce moment-là comme un point culminant des détresses de la justice aussi, quoi.
Et alors tout de même, puisque là dans l'affaire que vous évoquez, donc l'affaire de Gabriel Russier,
voilà.
Et celle de Manson, il y a aussi une fascination. Vous dites la justice, elle est dépassée parce qu'elle se retrouve les quatre fers en l'air, parce qu'elle est bousculée. Mais le romancier, est-ce qu'il n'est pas aussi fasciné parce que le réel produit quelque chose qui va au-delà de ce que parfois l'imagination peut produire?
Ah, ça c'est sûr et certain. Mais justement, c'est là où on voit aussi la différence de regard, c'est-à-dire que le romancier peut se payer le luxe d'une certaine façon, ou en tout cas c'est peut-être sa fonction sociale, c'est de ne pas être dans le jugement moral. C'est-à-dire évidemment Manson.
Il peut y aller à cet endroit.
Voilà, on peut aller là jusqu'à ce moment où, en fait, c'est la totalité de la scène qui est fascinante. C'est-à-dire que, en tant que juriste, évidemment, la seule chose que l'on doit trouver intrigante et sur laquelle il faut travailler, c'est la folie de Manson. Mais évidemment, on ne va pas trouver ça fantastique de voir la justice perturbée par ce déroulé-là. Alors que le romancier, évidemment, a au contraire toute licence, d'une certaine manière, pour justement se rendre compte que personne n'est serein face à des histoires comme ça, que peut-être on est même des fois complètement démunis. Par exemple, si on prend un procès qui n'apparaît pas parce que justement il n'a pas été jugé, mais si on prend l'histoire de Jacques Mesrine, le fait qu'il soit exécuté en plein Paris par un commando de police, alors sans procès, sans rien, etc., parce qu'il fallait juste. L'État avait décidé de mettre un terme à ces choses-là, mais c'est des moments fascinants. C'est-à-dire qu'en termes de police, non, c'est pas fascinant, mais pour un romancier, le moment où l'État se met hors la loi et exécute des gens en plein Paris, c'est évidemment un moment fascinant. Et le travail pour le romancier, c'est de suspendre des fois à certains moments son propre jugement pour essayer de creuser ce que ces situations-là ont de fascinant et de déroutant.
When they see the Lorsque le gouvernement bosniaque a fait des fouilles chez moi et dans mon bureau, ils ont pris des dossiers, et dans ce dossier, vous avez les papiers ici. C'est un papier, un document du gouvernement algérien, et ils étaient très très contents, les Américains étaient très contents. Ils m'ont dit, ah, vous êtes un membre du GIA. Je ne pouvais pas leur expliquer, je leur ai trop parlé de ce papier, mais ils ne m'ont pas cru. Vous avez ici un document officiel du gouvernement. Je leur ai dit, mais non, j'ai quitté l'Algérie en 99 et je suis revenu en Algérie. Non, attendez, je suis parti en 1990 et je suis retourné en 99, le 28 décembre 1999. Mais ils ne m'ont pas cru, ils n'ont pas cru. Mais ils savaient que j'étais innocent parce que en 2004, en 2003, quand ils ont commencé à me torturer, quand ils ont commencé avec moi, ils m'ont dit, l'interrogateur m'a dit, Lakhdar, 2005, nous savons que vous êtes innocent, nous le savons, nous n'avons rien sur le terrorisme contre vous, mais vous devez être témoin, vous devez témoigner au sujet d'autres gars, contre vous il n'y a rien.
Cette fois, la voix de Lakhdar Boumediene lui-même, c'est un entretien diffusé sur France 4 en 2009. Et c'est le dernier procès qui est travaillé par Sylvain Prudhomme, cette fois-ci, dans le livre En procès du collectif Inculte. Ici, c'est aussi un dépassement du XXe siècle et une façon de le faire exploser. On parlait tout à l'heure du tribunal Les Quatre Fers en l'air. Ici, c'est carrément le siècle Les Quatre Fers en l'air parce qu'il est bousculé par quelque chose d'insensé et d'improbable qui est Guantanamo. Alors, qu'est-ce que ce procès et comment s'en empare Prudhomme?
En fait, au tout début, l'idée de l'inclure là dans cette coupe du XXe siècle, c'est surtout que ce procès est lié en fait au 11 septembre 2001, puisque Guantanamo est né de la lutte antiterroriste post 11 septembre, et que donc oui, c'est un procès de 2008, mais en fait rattaché à 2001, et 2001 pour beaucoup d'historiens, voilà, marque la fin du XXe siècle. Mais là encore, c'est un petit peu la même chose qui se joue, c'est le fait qu'un État puisse se mettre totalement hors la loi, et ça a été pointé dès le début de Guantanamo, ça a été au prix justement d'une entorse dans l'expression, dans le vocabulaire, en inventant cette notion d'ennemi combattant qui est une apparition dans le vocabulaire international, en partant du principe que ces ennemis combattants n'avaient pas de pays, ce qui est en fait clairement une entorse administrative aussi, ça n'est pas vrai. Et là, on est complètement on va parler de Kafka tout à l'heure, mais on y est déjà, c'est-à-dire que Lakhdar Boumediene en fait est jugé une première fois en 2002 en Bosnie. La juge bosniaque qui instruit le procès se rend compte qu'il n'y a absolument rien contre ces six hommes. Vraiment rien du tout. Donc elle les innocente.
On est en 2002,
ils sortent de la prison, les gens les attendent, peut-être leur famille, je ne sais pas, en tout cas un collectif qui les attend pour les recevoir. Et là, en fait, les portes de la prison s'ouvrent, ils sortent en voiture, en fait, bâillonnés, et les Américains les emmènent à Guantanamo, furieux de...
Et cagoulés,
furieux de cette libération, persuadés donc, j'imagine, qu'en fait, il y avait bien quelque chose à retenir contre ces hommes. Mais au fil des six années ensuite d'enfermement à Guantanamo, on n'arrive pas du tout plus à produire quelque chose. Là, un grand avocat américain se met au service de ces hommes et parvient à obtenir un vrai, véritable procès, et un procès très, très incroyable, là aussi. Peu d'écrivains auraient peut-être été jusque-là dans l'imagination, c'est-à-dire là c'est vraiment un procès de Lakhdar Boumediene contre le président des États-Unis.
George W. Bush.
Voilà, ce qui arrive très peu souvent puisque les États parviennent à mettre plein d'obstacles quand quelqu'un veut s'en prendre à l'État. Évidemment, l'État sait se défendre et met plein d'obstacles avant qu'une telle chose arrive. Donc c'est une chose complètement folle. Qui se termine de manière heureuse puisqu'ils sont finalement libérés, sauf que Sylvain Prudhomme termine de manière très intelligente son texte sur les paroles de Lakhdar Boumediene, disant « Non, toute ma vie, je chercherai à refaire un procès contre Bush pour, cette fois, non pas simplement être libéré, mais pour que lui-même soit mis en accusation pour ces crimes-là. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui est définitivement détruit. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « Je vais passer le restant de mes jours à ne pas arriver à accuser Bush », c'est quelqu'un qui est détruit.
D'ailleurs, il dit « Jusqu'à ma mort », et dans cette phrase-là, enfin, c'est la phrase citée par Sylvain Prudhomme, et dans cette phrase-là, on entend combien sa mort est déjà là.
Elle est déjà là.
Combien
voilà.
Sa mort est déjà contenue dans cette injustice et dans cet emprisonnement fautif. Il est aussi question, vous l'avez cité rapidement, de ce Stephen Holt Charles Kay, qui est l'avocat qui s'empare du dossier, et de la résistance et de l'opiniâtreté de ces figures d'avocats qui décident de faire avancer des dossiers qui, a priori, n'ont aucune chance. C'est aussi le portrait en creux de ce genre d'individu-là.
Ah, bien sûr. D'ailleurs, ça pourrait presque donner la matière d'un autre livre, de s'attacher justement au parcours de ces hommes-là, qui sont parfois des individus incroyables, comme Gisèle Halimi, à d'autres moments qui sont des individus troubles, parce que je ne sais pas si vous avez noté, mais dans le texte consacré au procès de la prison d'Ajaccio, donc qui est signé par Jérôme Ferrari, on voit apparaître Gilbert Collard. Bon, voilà, à un endroit où on ne l'attend pas, étant donné ce qu'il est devenu, quoi. Donc là aussi, c'est voilà comment les gens évoluent, comment on peut être un jour un héros avec une faconde terrible et parvenir à mettre en crise l'idéologie d'un temps, et à d'autres moments, au contraire, se vautrer dans l'idéologie d'un temps et devenir encore plus coupable que les coupables, quoi.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Vous êtes Joseph K.
Oui, un accusé.
À ce qu'il paraît, votre affaire se présente mal. Et ma première requête n'a pas encore été déposée.
Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes considéré comme coupable.
Je ne suis pas coupable. D'ailleurs, comment peut-on dire d'un homme qu'il est coupable? Nous ne sommes tous que des hommes ici, les uns comme les autres.
Tous les coupables disent la même chose. Qu'as-tu l'intention de faire maintenant?
Chercher de l'aide.
De l'aide?
Il y a de nombreuses possibilités que je n'ai pas encore exploitées.
Tu comptes trop sur l'aide extérieure, en particulier de la part des femmes.
Et les femmes ont beaucoup d'influence. Tenez, le juge d'instruction, par exemple. Il n'y a qu'à lui montrer une femme pour qu'aussitôt il renverse le banc et l'accuser avec, afin de se précipiter dans ses jupes. C'est là un aspect de la cour que vous ignorez, probablement. Où est la porte?
Je vais être en retard, il faut que j'aille au bureau.
Après tout, je suis encore le directeur adjoint de l'ancien.
Joseph!
Qu'est-ce que vous faites dans cette église? Depuis, sommes-nous dans une église ou bien dans une dépendance du tribunal?
J'ai abandonné mon lit de malade.
Eh bien, retournez-y dans votre lit!
Vous ne songez pas sérieusement à vous défendre vous-même?
C'est une alternative. Me défendre moi-même ou vous défier?
Défier la cour?
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un appareil dont nous nous servons.
Après le serment, la conférence?
Oui. Et voici comment sont décrits vos errements personnels dans les textes qui préfacent la loi. Devant les portes de la loi se tient un garde. Un homme arrive du pays qui demande accès à la loi, mais le garde ne peut le laisser entrer. L'homme attend dans l'espoir d'être admis plus tard.
Je l'ai déjà entendu. Tout le monde l'a entendu. Il attend toute sa vie et quand il est sur le point de mourir, le garde lui dit que cette porte était là pour lui. Et seulement pour lui, c'est ça, n'est-ce pas?
Le garde lui dit, personne d'autre que toi ne pouvait franchir cette porte et maintenant, je vais la fermer pour toujours. Certains commentateurs font valoir que l'homme est libre, libre d'aller où il veut. De son plein gré.
Et vous espérez que je vais avaler ça?
On ne vous demande pas de l'accepter comme une vérité, mais comme une nécessité.
Quelle lamentable nécessité. Ériger le mensonge en un principe fondamental.
Joseph, en défiant l'injustice par un geste aussi manifestement démentiel, Vous espérez peut-être pouvoir plaider la folie. Je reconnais que vous apportez quelques arguments à cette thèse en vous prétendant victime de je ne sais quel complot.
Vous considérez cela comme une preuve de folie?
Disons, délire de la persécution.
Délire?
Oui.
Je ne prétends pas être un martyr.
Même pas victime de la société?
Non. Pas victime, mais membre de la société.
Voilà un extrait, on passe du côté de la fiction. Arnaud Bertina, ici c'est Le procès d'Orson Welles, un film de 1962, et vous parliez de Kafka il y a quelque temps en évoquant les procès réels que traitent les écrivains dans cet ouvrage publié par Inculte. Ici on est dans un endroit qui est vraiment à mi-chemin entre la littérature et le cinéma. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez entendre ce film-là?
C'est un film, comme presque tous les films de Welles, qui est très impressionnant. En fait, d'abord, il a été tourné à Paris, en partie dans la gare d'Orsay, qui à l'époque était désaffectée, ce qui a permis à Welles d'avoir des espaces vraiment très peu banaux.
Banal.
Et donc d'avoir ces fameux angles pour la caméra, pour filmer les personnages, et puis pour les montrer dans un univers comme ça qui les écrase, dans lequel ils se trouvent tout petits, esselés. Il y a quelque chose, moi, que je trouve très, très poignant dans ce film-là, qui est pourtant pas peut-être celui qu'on cite le plus rapidement de Welles. Ensuite, parce qu'il y a la folie de Kafka derrière, et puis j'avais le sentiment, en fait, que ça répondait bien à un des textes du volume qui m'a le plus marqué, qui est celui de Christophe Manon, qui est un texte sur les procès qui sont intentés aux ennemis du peuple en Russie entre 28, je crois, et 30 et 50, entre 27 et 56. Et c'est un texte complètement fou, parce que là encore, ça se joue uniquement dans le langage. C'est-à-dire comment, en fait, l'État soviétique, le stalinien déjà, va mettre en place, en fait, des articles de loi qui vont lui permettre de mettre en accusation absolument tout le monde et n'importe qui, mais de manière ouverte, en fait, de manière quasiment assumée. C'est-à-dire que les promoteurs de ces articles de loi vont eux-mêmes dire que, de toute façon, il est très important que des innocents y passent, parce que c'est le seul moyen de tenir l'ensemble de la population.
Par la terreur, par la peur.
Par la terreur, voilà. C'est-à-dire, ça peut vous tomber à n'importe quel moment dessus, que vous soyez innocent ou coupable. Et à un moment, Christophe Manon cite ce passage des récits de la Kolyma de Varlam Chalamov. Le gouvernement se créait des ennemis imaginaires avec lesquels il réglait ses comptes comme s'il s'était agi de vrais ennemis, les fusillant, les tuant, les faisant mourir de faim. La faux mortelle de Staline fauchait tout le monde sans distinction, tous ceux qui étaient voués à la liquidation selon des listes et des plans à réaliser. Tous étaient des gens pris au hasard, des indifférents, des lâches, des médiocres et même des bourreaux, et c'est par hasard qu'ils sont devenus des victimes. Donc ça, c'est une phrase complètement dingue, mais qui résonne bien par rapport à Kafka, c'est-à-dire cet homme qui se débat, qu'on met en accusation, qui se débat, qui ne sait absolument pas pourquoi on l'accuse et de quoi on l'accuse, mais qui doit vivre avec cette idée de faute. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup aussi par rapport un peu à l'idée de faute au sens chrétien, quoi. C'est-à-dire, on est censé être coupable de quelque chose, mais de quoi? Coupable,
au sens pécheur.
Au sens pécheur.
Et qu'il y a une partie de l'équilibre de la justice, mais alors là, du coup, de la justice chrétienne, la justice de Dieu qui repose sur ça,
et notamment, par exemple, il apparaît beaucoup dans les textes, la question qui est une question très connue des aveux obtenus en garde à vue et des rétractations ensuite, mais en fait certainement qu'une partie des aveux obtenus ne sont pas obtenus uniquement par la violence de la police qui réussit à faire peur, mais justement parce que tout le monde se sait ou se croit, en tout cas dans l'univers judéo-chrétien européen, se sait ou se croit d'emblée de toute façon coupable. Donc il y a ces interactions-là comme ça entre la sphère religieuse, ce qui façonne une société, ce que décide une époque précisément, et la fable de Kafka qui justement n'est située à aucun moment précis, dans aucun endroit précis, elle réussit justement à faire vivre tous ces éléments-là, et elle est glaçante précisément pour ça, c'est-à-dire qu'on se sent attaqué de tous les côtés, mais sans savoir absolument qui nous attaque et sans savoir pourquoi on est attaqué.
Parce que le procès est aussi le lieu, on l'a dit, pour désigner la justice, pour redire certaines règles qui permettent que le collectif tienne en place et tienne correctement en place, mais c'est aussi le lieu de la décision du bien et du mal, de la morale, de là où se situe justement la bonne balance.
Exactement, mais par exemple, il y a un des textes du volume, celui de Stéphane Legrand, qui est un texte en fait qu'il consacre à un petit bout de témoignage d'un résistant qui raconte que dans un maquis français, en fait, une jeune femme qui était la compagne du chef a décidé de quitter son chef parce que c'était une histoire d'amour terminée. Le chef s'est vengé, il y a eu un simulacre de procès, mais entre ce groupe groupe de résistants. Elle a été violée par l'ensemble du groupe et ensuite exécutée. Et en fait, Stéphane Le Grand, de manière très puissante, s'arrête sur ce cas en disant mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin d'un procès, en fait? C'est-à-dire, ils étaient là, paumés dans le maquis. Quel sens ça avait de quand même faire un procès alors que tout le monde savait ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'ils allaient l'exécuter. Tout le monde savait qu'elle était innocente, que c'était juste la vengeance du chef, etc. Et donc, en fait, tout d'un coup, on voit que même une toute petite société comme celle-là se donne quand même la forme du procès, parce que c'est aussi une façon de se laver les mains. C'est-à-dire que quand bien même on serait d'une malhonnêteté crasse, quand bien même ce serait une justice de classe qu'il s'agirait de faire passer, quand bien même ce serait, par exemple une justice de classe, de toute façon on va le faire quand même, parce qu'au moins on aura comme ça tout le décorum, toute la, comment on dit, pas la pourpre, mais toute la... Bon, tout le décorum de l'idée de justice, de l'idée de justesse, de l'idée de vérité, etc. Et quand on tombe sur des exemples comme ça, on réalise à quel point il y a quelque chose de parfois grotesque et de glaçant, parce que ce grotesque est quand même opérant, quoi.
C'est ça. On réalise aussi la puissance. C'est-à-dire que si dans une société qui n'a besoin de rendre de compte qu'à elle-même, dans la forêt, dans le maquis, dans l'illégalité aussi, recrée y compris le simulacre du procès, c'est bien qu'il y a une puissance à ce simulacre-là et une puissance à ce décorum. Exactement. Pour souder le collectif. C'est encore ça qui se joue. Hein. C'est comment est-ce qu'on est une petite société ?
Une petite société. Et là,
y compris quand on commet du crime.
Oui. Et là, je vais pas pouvoir citer l'auteur qui rappelle cette chose-là, que je n'avais pas en tête, et qui est une chose sidérante. C'est qu'en fait, ce qui se joue, c'est que l'accusé lui-même doit contresigner les raisons pour lesquelles c'est-à-dire il fait lui aussi partie de cette société, et c'est donc lui-même aussi qui participe à l'acte d'accusation.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on entend dans l'extrait d'Orson Welles. Il dit je suis membre de la société.
Exactement. Alors ça, c'est à la fois une phrase très très belle, parce que on dit tiens je ne suis pas uniquement coupable ou je suis pas victime. Donc ça, c'est très très beau comme espèce de sursaut, mais membre de cette société, et le hors champ de la phrase, c'est qui me condamne aussi, quoi. Donc là, c'est une phrase sidérante.
Et dans cet extrait, on entend aussi nous sommes tous que des hommes ici, les uns comme les autres. Et c'est ce que disait la jeune juge Céline Roux, qui était assise ici mardi et qui parlait de son travail, qui disait l'enjeu du procès, c'est aussi de réunir des humains pour se dire que nous sommes tous des humains, avec le crime, avec la faute, avec l'innocence, avec la capacité de juger, la capacité de défendre. C'est aussi un lieu pour se redire combien l'humanité est partagée et quel est le point de départ.
Et ça, je crois qu'en fait, quand... ce n'est pas mon métier, mais je crois que effectivement les avocats, les procureurs, etc., les magistrats vivent souvent ce genre de moments-là, qui sont justement des moments de suspens, en fait, du jugement, paradoxalement, qui sont aussi peut-être des moments, des fois, d'émotion. Alors nous, là, on parle de procès qui sont très très symboliques, qui ont un moment concentré toutes les attentions, donc peut-être que dans ces moments-là, c'est pas le meilleur moment pour que ça se fasse entendre. Mais je crois qu'il y a des moments d'abattement, d'aveu, qui sont des moments qui peuvent réconcilier quand même un peu avec l'idée du groupe, avec l'idée du décorum, avec l'idée de l'époque. Enfin,
et redonner son sens, parce que la justice des hommes part du principe que nous sommes des hommes tous, y compris celui qui tue.
Exactement.
Verdoux, avez-vous quelque chose à ajouter avant le prononcé de la sentence?
Oui, monsieur le président. Quoique monsieur le procureur ne m'ait pas accablé de compliments, il m'a accordé du moins une intelligence brillante. Merci, monsieur le procureur, c'est exact. J'en ai fait durant 35 ans un emploi honnête. Après quoi, on m'a remercié. Je me suis vu forcé de m'établir alors à mon compte. Et si je me suis baigné dans le sang, la société m'y a encouragé. Car n'est-ce pas elle qui fabrique des armes destructrices dans le seul but d'exterminer des hommes ? Ne tue-t-elle pas, elle aussi, des femmes sans méfiance et des enfants qui en ont moins encore, et en usant de moyens très scientifiques ? En fait de bain de sang, je ne suis guère qu'un modeste amateur. Et entre nous, je ne voudrais pas perdre mon calme au moment où je vais perdre ma tête.
Là encore, la folie, et là encore, les femmes. C'est Monsieur Verdoux, c'est un film américain réalisé par Charlie Chaplin, sorti en 1947. C'est aussi un film que vous souhaitiez entendre, Arnaud Bertina. Pourquoi ?
Parce que ce dernier discours est complètement sidérant, c'est-à-dire que et fascinant sur un plan artistique. On revient là à ce qu'on disait tout à l'heure sur la suspension du jugement. Verdoux est explicitement un assassin dans le film. Chaplin ne cherche pas à financer avec ça. Et donc un assassin, il le dit là lui-même au départ, il va utiliser son intelligence de manière perverse, mais il y a quand même de la...
opérante,
voilà, il y a quand même de l'intelligence à l'œuvre, et qui renverse complètement l'accusation, en fait. C'est-à-dire que on lui reproche quelque chose, on l'accuse de quelque chose, mais qu'est-ce que son crime en regard de tous les crimes dont on peut être le témoin, de l'armement, etc., etc. Et donc, je crois que c'est un discours qu'il fait face caméra presque, ou en tout cas, c'est un petit peu l'idée là de prendre un peu à la gorge les gens et de montrer toute l'hypocrisie d'une société, quoi. C'est-à-dire on s'en prend à des individus, alors que en fait la responsabilité sur un autre plan, elle est collective et écrasante. Le cas de Verdoux, on peut l'appliquer à des milliers de choses dont on est le témoin aujourd'hui ou dans le passé, sur effectivement l'armement, sur les pays qui prétendent apporter la démocratie mais qui l'apportent sous la forme de bombes qui tuent les populations civiles, etc., etc. Et sur l'hypocrisie des discours. Et là je trouve ce retournement d'accusé en accusateur, je le trouve d'une efficacité vraiment, vraiment dingue.
Et ça nous ramène à l'une des hypothèses, on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui avait poussé ce collectif d'auteurs et cet ouvrage collectif à voir le jour. C'était de voir comment est-ce que ces procès sont des fragments de temps, des fragments pour la société, des fragments pour l'histoire, la possibilité de se dire, mais aussi des individus. Et le film de Chaplin que vous avez choisi dit ça aussi, dit une vie c'est une vie et c'est une vie qui peut être aussi broyée par une très grosse machine, un très gros monde, des très grosses règles.
Oui. Et puis aussi ce truc dingue aussi de quelqu'un qui peut, dans certaines circonstances, alors non pas devenir un héros puisque Verdoux est un assassin, mais dans certaines circonstances peut être amené à se dépasser complètement lui-même. C'est-à-dire que ce discours-là, par exemple, c'est justement le cas de quelqu'un qui, au moment où il est broyé par une énorme mécanique sociale, juridique, etc., c'est quelqu'un qui tout d'un coup est capable de tenir un discours absolument dingue. Exactement comme dans le dictateur du même Chaplin, quoi. C'est à la fin, quand il fait ce discours et qu'il renonce à faire croire qu'il est Hinkle et qu'il fait un discours de paix, c'est alors qu'il était jusque-là plutôt fuyant, plutôt peureux, etc., là tout d'un coup il prend une dimension incroyable. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire que certaines circonstances font de vous des héros. Peut-être que Gisèle Halimi, par exemple, c'est à nouveau elle qui me revient, mais peut-être Gisèle Halimi a-t-elle toujours eu cette force-là, mais peut-être aussi ce sont les circonstances qui tout d'un coup ont provoqué cette colère en elle, ce sursaut, et qui l'ont amenée ensuite à rester sur cette espèce de ligne de crête, de dire je ne descendrai pas, je ne renoncerai pas à ce combat-là.
Et ça, c'est d'ailleurs, ça me renvoie quand même, je fais référence, mais parce que c'était des tout jeunes avocats qui commençaient leur carrière et qui racontaient comment est-ce que dans le premier procès, au moment d'entrer, ils sentaient dans leur corps qu'ils allaient aller au-delà de capacités qu'ils se connaissaient. C'est comme si vraiment ils incarnaient quelque chose qui devenait plus grand qu'eux.
Voilà, c'est la question du symbole. Et par exemple, Emmanuel Ruben, dans son texte sur Marwan Barghouti, justement montre ça, c'est-à-dire le décalage entre l'incroyable symbole que représente Marwan Barghouti et puis ensuite la réalité de son corps qui, au contraire, est écrasé en prison par les 15 années d'emprisonnement et qui, sur les photos qui sont transmises, ne ressemble plus à rien, sauf que son image glorieuse sur tout le mur de séparation entre Israël et la Palestine est une image qui reste glorieuse pour tout le monde, quoi. Donc là, à ce moment-là, il y a des individus qui sont broyés, mais il y a aussi des symboles qui apparaissent, qui peuvent être des symboles très très beaux.
T'es trop de talent, Éparvier, pas assez de cœur. Pour juger un amour, faut être capable d'aimer. Comment osez-vous discuter ce suicide? Vous faites de cette femme une espèce de vampe, de Circé. Mais est-ce de sa faute si elle est belle? Si les hommes la poursuivent comme un gibier, et Gilbert plus ardemment que les autres, l'a-t-elle jamais provoquée? Non. Pendant 3 semaines, il la poursuit. Il la harcèle. Rien ne l'arrête, pas même cette aventure qu'elle a presque sous ses yeux. Il la veut, il la lui faut quand même. Et il la prend toute chaude encore de l'étreinte de l'autre. Et vous appelez ça de l'amour? Durant 7 mois de liaison, que lui a-t-il offert? Son lit. Son lit tous les jours, ça oui. Mais 1 heure par jour? Si elle passait la nuit dans ses bras, elle pourrait troubler son confort.
Mais enfin, il lui a quand même proposé de l'épouser.
Bien sûr, quand il ne risquait rien, quand il n'avait pas les moyens de le faire. Mais dès qu'une ombre de possibilité apparaît, alors on ne parle plus mariage. Au contraire, on rompt. Et sous quel prétexte? Des ragots de femmes haineuses. Un malentendu qu'on ne cherche pas à éclaircir, c'est vous qui l'avez dit. Maintenant, la carrière de Gilbert se dessine. À quoi lui servirait Dominique? Et vous appelez ça de l'amour?
Maître, vous plaidez. Ça n'est pas le moment.
Pas le moment? Parce que vous pensez qu'il y a un moment pour la justice. Durant des mois, celle-ci mendie, meurt de faim, se prostitue. Mais oui, se prostitue. A-t-il eu un geste pour la sortir de la boue? Non. Et vous appelez ça de l'amour? Une nuit, elle arrive à implorer son pardon. Il la bute sur ses sentiments. Il laisse renaître en elle l'espoir pour profiter d'elle encore une fois. Et il la congédie comme une fille. Elle revient. et lui dit son intention de disparaître. Il la met au défi de tirer. Et vous croyez encore à cet amour? Moi pas.
Mais si Gilbert m'a aimé. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je le verrai plus. Je ne verrai plus, vous comprenez? Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien. Vous êtes là, déguisé, ridicule. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez, parce que vous êtes tous morts, morts.
Ces injures sont intolérables, c'est un scandale.
Aussi, pourquoi pousser cette malheureuse à bout? Voilà le scandale.
Si vous cherchez un incident.
Votre cruauté est indigne de la robe que vous portez.
Qu'est-ce que vous dites?
Messieurs, messieurs, il est 7h30, l'audience est suspendue. Elle reprendra demain à 13h, garde, emmenez l'accusé.
Et on est en 1960, et enfin La Vérité. Arnaud Bertina, c'est le dernier film que vous souhaitiez entendre. Peut-être une réaction rapide à cette
ouais,
scène.
C'est d'une beauté incroyable, indépendamment du jeu de Vanel et de Bardot. Moi, ce que c'est en termes d'écriture, je trouve ça complètement fou parce que Vanel a complètement raison dans ce qu'il dit. Simplement, Bardot, sa réaction est superbe et elle a complètement raison aussi. Et c'est ça que je trouve fantastique, c'est quand deux personnes ne sont pas d'accord mais qu'elles ont raison toutes les deux. Et ça, c'est des moments d'intensité incroyable. C'est pas souvent dans la vie en fait. Et c'est justement, il faut peut-être le recul de l'œuvre pour arriver à montrer comment deux logiques peuvent être, sans être des logiques ennemies, peuvent en fait être irréconciliables. Et évidemment, Vanel, là, il est beau parce qu'il est du côté de Bardot, c'est-à-dire il veut la défendre contre justement la bêtise, la méchanceté, l'indifférence des hommes. Mais mais Bardot, elle veut en rester aussi à l'idée qu'elle a aimée, parce que si elle renonce à cette idée-là, alors vraiment, c'est toute sa vie qui ne vaut plus rien. Et je trouve que, voilà, qu'en termes d'écriture, cette opposition qui n'en est pas une, elle est magnifique.
Vous écoutez France Culture. Les Nouvelles Vagues par Marie Richaud.
14h51 sur France Culture. Ah si, ça y est, j'ai pas compris. Soumanina me dit qu'on entendra en effet Bonnefrit la semaine prochaine, un graphiste de talent qui sera dans la rubrique Au Singulier, mais pour l'instant et toujours, c'est Balaké Sissoko, le joueur de Cora, qui nous livre un dernier récit marquant, récit singulier, très personnel, puisqu'il parle de la naissance de sa fille 3 mois avant terme, Maïmouna.
Elle, c'est ma troisième, parce que là j'ai 4 enfants. Donc, c'est grâce à elle-même que ma femme, elle est toujours en France. Parce que là, moi j'ai fait beaucoup d'allers et tout. Donc, là je n'étais pas résident, quoi. Donc, du coup, et comme je travaillais beaucoup sur l'Europe, donc j'ai dit ok. Je vais te faire venir là, tu regardes un peu le travail que tu es en train de faire dehors du Mali, quoi. Donc là, je lui fais venir. Donc on a fait une tournée ensemble. Après la tournée, donc là j'ai fait mon album qui est dédié à Peace. Donc il y avait ma femme à côté de moi dans les studios. Donc là, j'ai fait une dernière morceau comme ça, mais solo, mais j'ai pas le nom. J'ai dit, OK, faut profiter avec ton visa ici. Donc moi, je suis rentré au Mali. Donc ma femme, elle est restée un tout petit peu. Mais l'accouchement était prévu aux États-Unis pour moi, parce que là, j'ai déjà payé tout. Donc juste pour faire un avant-promenade sur l'Europe, après aux États-Unis. Donc du coup, moi, je suis allé, là, je suis rentré au Mali. Au bout de 4-5 jours, tac, là, j'ai reçu des coups de fil que ma femme est accouchée. J'ai dit, accouchée 5 mois. T'as vu? J'ai demandé, est-ce qu'il a tous les corps est bien mis ou quoi, là? Il dit, oui, mais on peut pas te confirmer. Si ça reste deux semaines, ça peut aller. Donc, ils ont mis dans les couveuses, elle pesait 900 grammes. T'as vu? Donc elle a fait 4 mois et demi dans les couveuses. T'as vu? Donc là, du coup, au bout de 3 ou 4 jours, moi, j'ai pris les vols, là, je suis venu, essayer de voir. Mais, Dieu merci, tout va bien. Maïmouna a 3 ans et demi, elle part bien, tous les résultats sont bien. Mais du coup, on l'attend juste pour le développement, voir. Donc c'est pour cela que ma femme, elle est là. Donc là, c'était vraiment des moments qui étaient très forts. Mais surtout, ma femme, là, donc c'était aussi son premier enfant Donc c'était compliqué pour elle. Donc elle a beaucoup souffert. Parce que moi, je ne suis jamais là. Donc là, je vois toujours quand je suis là, quand je rentre en France, là, quand je les revois à l'hôpital, l'enfant est dans le couveuse, elle est comme ça, elle est en train de regarder. Quand je dis, ouais, là, ça va aller. Donc là, c'était vraiment des moments qui étaient très forts. Ouais.
He got the whole world in his hand. He got the big wide world in his hand. He got the whole world in his hand. He got the whole world in his hand. He got the wind and the rain in his hand. He got the stars and the moon right in his hand. He got the wind and the rain in his hand. He got the whole world in his hand. He got the gambling man in his hand. He got the lying man in his hand. He got the crop shooting man in his hand. He got the whole world in his hand. He got the little bitty baby in his hand. He got the tiny little baby in his hand. He got the little bitty baby in his hand. He got the whole world in his hand. He got a you and me brother in his hand. He got a you and me sister in his hand. He got a you and me brother in his hand. He got the whole world in his hand. Well, he got everybody in his hand. He got everybody here right in his hand. He got everybody in his hand. He got the whole world in his hands.
Ça s'invente pas une voix comme ça. Vous allez dire quoi, Arnaud Bertina?
Non, c'était beau de finir sur une chanson comme ça, qui est une chanson en fait d'un peu d'apaisement et de réconciliation. Donc une semaine de justice et finir sur l'apaisement et la réconciliation, c'est pas mal.
C'est He Got the Whole World in His Hands, chanté par Jen Lee. C'est vous qui aviez souhaité terminé, et en effet, ça tombait très très bien, notamment après le récit de Balaké Sissoko qui portait ce petit être de 900 grammes dans ses mains, et il fallait 2 semaines pour que ça tienne, la vie. Merci beaucoup Arnaud Bertina d'être venu avec nous pour terminer cette semaine sur le procès. En procès, c'est le titre du livre du collectif Un culte, une histoire du XXe siècle. Les nouvelles vagues, c'est terminé, c'est terminé. Mais ça peut se réécouter sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur franceculture.fr et nous écrire via le petit formulaire à droite, la petite enveloppe. On peut aussi se parler via Twitter et Facebook. Merci beaucoup à Romain de Bec de Lièvre, Alice Ramon et Inès Duperron qui préparent cette émission avec moi. Merci à Somanina qui la réalise et à Romain Couturier et Michael Simon de la discothèque de Radio France. Aux manettes aujourd'hui, c'était Jean-Frédéric. C'est au droit d'auteur, c'était Lee Torquia. Avant de retrouver dans un instant la musique avec Mathieu Conquet, je peux vous dire que nous organisons les 4 et 5 juin avec France Culture et le Centre Pompidou une grande manifestation qui s'appelle le Week-end Imagine. Et le samedi de 14h à 19h, nous attendons tous les joueurs et les joueuses intéressés pour une géante marelle dédiée aux très grandes expériences esthétiques qui vous ont marqué. On met ça sur le site internet France Culture, Facebook et Twitter. Vous êtes les bienvenus.